VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 18h à Dakar et à Abidjan. Dans 10 minutes, Carrefour Science et Santé, présenté par Camille Gros-Didier. Mais auparavant, voici notre journal. Et bien sûr, nous commençons avec cette catastrophe aérienne, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings qui reliait Barcelone en Espagne à Düsseldorf en Allemagne, s'est écrasé ce matin dans les Alpes françaises, provoquant la mort de ses 150 occupants. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière dans le pays depuis plus de 30 ans. D'importants moyens de secours ont été mobilisés, mais Alain Vidali, le secrétaire d'État au transport français, a annoncé qu'il n'y a aucun survivant. Le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré, je le cite, qu'à ce stade, aucune hypothèse ne peut être écartée dans les causes du crash. En fin d'après-midi, le ministre français de l'Intérieur a annoncé qu'une des boîtes noires a été retrouvée. Présent à Paris, le roi Philippe VI d'Espagne a annulé sa visite d'État qu'il venait d'entamer en France. Il s'est exprimé sur le perron de l'Élysée avec François Hollande. On écoute le président français.
Il n'y aurait pas de victimes françaises, mais je n'en ai pas encore la totale certitude. Je veux là encore exprimer nos sentiments les plus tristes à l'égard des familles qui sont aujourd'hui dans le deuil ou dans l'attente. Tous les moyens sont mis en place pour connaître les circonstances de l'accident et retrouver les victimes. L'accident s'est produit dans une zone particulièrement difficile d'accès et les secours ne pourront être apportés que dans quelques heures.
François Hollande, le président de la République française. Pour sa part, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'elle se rendrait demain dans les Alpes françaises où s'est produit le crash. Angela Merkel qui s'est immédiatement déclarée bouleversée par la catastrophe, alors que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, se disait consterné. Dans l'actualité africaine, nouveaux attentats en Égypte, dans le nord de la péninsule du Sinaï. Deux militaires ont été tués et 6 blessés dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule blindé. C'est ce qu'ont indiqué des responsables militaires à l'AFP. Plus tard, des assaillants à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur un policier. Au Nigeria, inquiétude grandissante autour des camps de déplacés dans le nord-est du pays à 4 jours des élections présidentielles et législatives. Des engins explosifs ont récemment été découverts près de ces camps alors que les forces de sécurité mettent en garde contre des combattants islamistes de Boko Haram qui seraient infiltrés. Plus d'explications avec Jacques Aristide.
Boko Haram peut perdre du terrain d'après l'armée nigériane, mais le groupe veut toujours perturber les scrutins du 28 mars. Les camps de déplacés sont une des cibles possibles, selon les experts en sécurité, d'autant que les déplacés du Nord-Est pourront déposer leur bulletin dans l'urne samedi, des bureaux de vote ayant été installés à proximité des camps de déplacés, comme annoncé par Atahiru Jega, le chef de la commission électorale indépendante. Mais à Maïdougouri, la plus grande ville de cette région et la capitale de l'État de Borno, les bureaux ont dû être installés à l'intérieur des camps pour des raisons de sécurité, a-t-il indiqué. Les militaires nigérians, soutenus par les armées de pays voisins, Tchad en tête, ont affirmé ces dernières semaines avoir repris de nombreux territoires conquis depuis l'an dernier par Boko Haram. Mais les insurgés, désormais affiliés au groupe État islamique, continuent d'attaquer des cibles vulnérables comme les gares routières et les marchés dans les grandes villes du Nord. Ce qui fait craindre de nouvelles violences à quelques jours des élections. Le gouvernement, par la voix du ministre Saminu Touraki, a promis aux électeurs que leur sécurité sera adéquatement garantie et qu'il leur faudra sortir samedi pour aller voter. Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections nigérianes du 28 mars. Enjeux et acteurs clés. Le Nigeria choisira-t-il la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Boko Haram de Shekau jouera-t-il le trouble fête? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
direction le Sénégal à présent. Les avocats de Karim Wade se sont pourvus aujourd'hui en cassation contre le verdict de 6 ans de prison infligé à l'ancien ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. L'action est accompagnée de l'appel par l'ancien président sénégalais à un rassemblement des partisans de l'opposition vendredi pour protester contre le verdict. Eddy Sango a demandé plus de détails à l'avocat de Karim Wade, maître Siré Clédor Ly.
Nous avons été dans une comédie judiciaire, et dans une démocratie. Ce n'est pas en fait élégant. Ce que nous combattons aussi, c'est que la juridiction n'est pas compatible avec les règles de droit international et les conventions qui ont été signées par le Sénégal et qui garantissent le droit à un procès équitable. Dès le départ, une juridiction internationale a eu à dire que la présomption d'innocence de Karim Wade a été violée, a rappelé l'état du Sénégal à l'ordre. Et ils ont refusé. Karim Wade ne peut pas être poursuivi pour des faits qu'il aurait commis alors qu'il exerçait une fonction gouvernementale et ensuite on le juge par une juridiction de droit commun alors que notre loi fondamentale, la Constitution, dit que lorsque des faits ont été commis dans l'exercice d'une fonction gouvernementale, alors c'est la Haute Cour de justice.
Maître Siré Clédor Ly, avocat de Karim Wade. En Guinée, les dirigeants des 3 principaux partis d'opposition appellent à manifester contre le président Alpha Condé. Dans une déclaration commune envoyée à VOA Afrique, les 3 anciens premiers ministres, Sélou Dalène Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, accusent notamment M. Condé de, je les cite, « mépris total de l'autorité de la loi » et de « violation récurrente des droits de l'homme ». Le Parlement du Soudan du Sud a prolongé ce mardi le mandat du président Salva Kiir jusqu'en 2018. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP le président de la Chambre basse, Thomas Wani Kundu. Selon la constitution de ce jeune pays, indépendant depuis le 9 juillet 2011, dès les élections parlementaires et présidentielles devaient pourtant être organisées avant le 9 juillet 2015. Le mandat des députés a aussi été prolongé jusqu'en 2018.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et dans le reste du monde, Israël est accusé d'avoir espionné son plus grand allié, Washington, et d'avoir même tenté en coulisses de saboter tout éventuel accord sur le nucléaire iranien entre Téhéran, les États-Unis et les autres grandes puissances. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon le Wall Street Journal, qui a publié cette information hier soir, des officiels de la Maison-Blanche disent avoir appris l'année dernière qu'Israël usait de la pose des micros, des informations des briefings américains confidentiels, d'informateurs et des contacts diplomatiques en Europe pour obtenir des détails sur les négociations avec l'Iran. Le journal précise qu'Israël a démenti avoir espionné directement les États-Unis, mais soutient avoir plutôt obtenu des informations en surveillant les leaders iraniens qui recevaient des mises à jour sur les pourparlers. Israël est farouchement opposé à tout accord avec l'Iran. Quoi qu'il en soit, la Maison-Blanche, plus que l'espionnage, est irritée par le fait qu'Israël ait partagé ses informations confidentielles avec des élus du Congrès où de nombreux adversaires républicains du président Barack Obama sont hostiles à un accord, rapporte l'AFP.
En Afghanistan, des frappes d'un drone américain ont provoqué la mort d'au moins 13 combattants liés aux talibans pakistanais dans le sud-est du pays, à la lisière des fiefs islamistes des zones tribales pakistanaises, ont annoncé mardi des sources sécuritaires pakistanaises à l'AFP. En Syrie, les combattants d'une coalition formée par la branche syrienne d'Al-Qaïda, le Front al-Nosra et d'autres groupes islamistes armés ont lancé une offensive contre Idlib, ville du nord-ouest de la Syrie contrôlée par le régime. C'est ce qu'ont indiqué mardi une ONG et des militants à l'AFP. La chaîne publique syrienne a, pour sa part, fait état de combats autour de la ville, parlant de plusieurs morts parmi les forces anti-gouvernementales. Et pour terminer, les États-Unis mènent des vols de reconnaissance afin d'aider les forces irakiennes dans leur offensive pour reprendre la ville de Tikrit au groupe État islamique. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un haut responsable de la coalition internationale. Cette coalition dirigée par les États-Unis mène des raids aériens contre le groupe État islamique et fournit formation et équipement à l'armée irakienne dans plusieurs régions d'Irak. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Carrefour Science et Santé, présenté par Camille Grosdidier. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de